Jeune diplômé, comment réussir votre intégration dans la vie professionnelle? Vous savez, l'emploi est l'un des axes prioritaires des 5 chantiers de la République. Cependant, bon nombre des jeunes diplômés ne trouvent pas assez de débouchés. Certains sont au chômage. Pour survivre, ils se débrouillent. Alors, la fonction publique intéresse peu les jeunes. Certains rêvent de travailler dans des entreprises et organismes internationaux où ils peuvent avoir un salaire décent. Cependant, ils pensent que le système est verrouillé. Alors, que faire pour sortir du chômage et réussir son intégration dans la vie professionnelle? Alain Poutou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes expert en ressources humaines, diplômé en gestion prévisionnelle des compétences, et vous travaillez en ce qui concerne l'insertion des jeunes diplômés dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, et c'est un fait, beaucoup de jeunes sont au chômage. Comment s'en sortir?
Merci beaucoup. Je crois qu'il faut d'abord chercher un peu à comprendre les causes qui font qu'il y ait un taux du chômage très élevé.
Oui.
Parce que le problème, c'est quoi?
Vous avez des statistiques, c'est autour de combien?
En fait, pas du tout, mais le problème, c'est celui-ci. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens au chômage. Je crois que l'emploi, c'est l'un des chantiers du chef de l'État.
Oui.
Et que le problème, c'est que dans ce domaine ici, il n'y avait pas un plan d'action concret. Il n'y avait pas un plan d'action concret. Parce que vous savez, le chef de l'État a une vision, il a inséré l'emploi dans ses axes prioritaires.
Oui.
Mais c'est ce qu'il n'y a pas de plan d'action pour lutte contre le chômage. Donc les gens qui sont censés élaborer ces plans d'action ne l'ont pas fait. Je crois qu'il y a un problème sérieux au niveau d'abord de compétences. Il n'y a pas de techniciens qui peuvent élaborer le plan d'action de réduction du chômage.
Alors c'est établi, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont au chômage et ils sont chômeurs. Alors qu'est-ce qu'ils font entre-temps?
Il y a certains qui sont dans des cabines téléphoniques, les autres sont des changeurs de monnaie, parce qu'il y a un problème sérieux. Vous allez trouver, quand il y a offre d'emploi, on demande déjà les expériences professionnelles, 2 à 3 ans. On donne la liste des tâches, et là-dedans, on demande la connaissance en informatique, et même cette liste-là qui est longue, on dit que la liste n'est pas exhaustive. Donc vous allez vous rendre compte que le système est tellement verrouillé que la personne qui cherche à intégrer est censée d'abord chercher à comprendre c'est quoi le système. Parce que vous pouvez entrer comme ça, vous venez avec vos prétentions, parce qu'une chose est vraie, notre système éducatif, c'est un système qui forme des victimes, les gens qui subissent la pression de la réalité professionnelle. On vous donne des enseignements qui ne correspondent pas aux besoins réels de l'employeur en matière de la main-d'œuvre. Vous allez trouver les
marchés. Mais pourquoi ce décalage entre la théorie à l'université et arriver sur le terrain, c'est autre chose?
Exactement. Vous allez comprendre qu'il y a par exemple un professeur qui donne le cours de comptabilité. Depuis qu'il est né, il n'a jamais été comptable. Ce qu'il donne là, lui suppose que non, l'université forme des chercheurs. Pendant que la vie professionnelle actuelle a besoin des exécutants, les gens qui exécutent, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a des organisations internationales qui reçoivent aussi eux des financements de la part d'autres bailleurs de fonds. Quand ils arrivent là, ils n'ont pas besoin de chercher. Ils ont besoin d'un
projet,
justement,
qui doit être
à court terme.
Oui, à court terme.
D'ailleurs,
ouais.
Quand vous regardez les profils d'un consultant, on demande déjà des expériences. Quelqu'un qui doit apporter son appui technique. Mais celui qui vient fraîchement de l'université n'a pas l'expérience. C'est quelqu'un qui est, en d'autres termes, c'est un profane. Et puis, il vient d'être formé, il vient d'un système inadapté, s'il faut le dire. C'est un système qui est inadapté. Ce qu'il faut faire normalement, c'est...
Il y a beaucoup de théories à l'université.
Trop de théories. Vous êtes journaliste, vous regardez un peu les programmes à l'université pour le journalisme. On donne des cours, par exemple, sur l'histoire de la communication. Est-ce que quand vous êtes ici au plateau, vous avez besoin de l'histoire de la communication? Ou bien il faut comprendre comment on peut passer l'émission. Donc vous allez trouver que c'est un système qui donne des cours inutiles. Je me rappelle quand j'étais en première année graduée, j'avais à peu près 22 cours. Moi qui fais le marketing, qu'est-ce que je dois faire avec ces cours-là?
22 cours.
22 cours. Vous êtes sûr qu'en terminant la licence ou les graduats, quelqu'un peut maîtriser toutes ces matières? Pas du tout. Ce qui fait que quand il finit...
Mais ça vous donne quand même la culture générale.
Pas du tout. On ne forme pas quelqu'un par rapport à la culture générale. Regardez un peu les systèmes d'ailleurs. Ils ont des programmes de BTS, ils ont des programmes de licences professionnelles et les licences de recherche. Je crois que les gens qu'on forme ici au Congo sont des gens qui sont bons pour les bureaux d'études et de planification. Ce ne sont pas des gens pour l'exécution. C'est faux. Pour l'exécution.
Alors maintenant, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils vont célébrer, ils vont fêter la collation des grades académiques avec des cortèges, la famille, on chante, on danse, mais après, demain, maintenant, il faut trouver de l'emploi, il faut trouver du boulot. Et beaucoup se retrouvent au chômage, vous avez dit, ils sont dans les cabines téléphoniques, ils sont, ils font la monnaie à gauche, à droite, donc les gens se débrouillent. Alors, comment aujourd'hui les jeunes peuvent réussir leur intégration dans la vie professionnelle?
Ok, la première des choses, le gouvernement doit d'abord élaborer un plan d'action de lutte contre le chômage. C'est très important. Il faut que le gouvernement commence par élaborer ça. Et pour élaborer ces plans, le gouvernement doit associer des techniciens, pas des gens qui sont dans des recherches, non. Des gens qui maîtrisent, des gens qui sont formés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire qu'ils vont aider le gouvernement à leur donner les détails sur les plans d'action. Une fois que le plan d'action est élaboré, ça permet maintenant aux gens qui doivent chercher le travail de comprendre un peu quelle est la politique actuelle de l'État en matière de l'emploi. Parce que dire et faire, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Donc il faut qu'il y ait d'abord le plan d'action. Et ce plan d'action-là, ce n'est pas en fait au niveau du ministère. Les ministères exécutent un mandat politique. Il faut associer les techniciens, les gens du terrain. Parce qu'il y a un management, il y a la différence entre un visionnaire et un missionnaire. Le visionnaire a l'inspiration. Le président dit, ok, je vais travailler dans tel chantier, il a inséré l'emploi. C'est ça l'inspiration. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a une grande vision. Mais pour travailler sur le terrain, ça ne dépend plus du visionnaire. C'est un problème des missionnaires. Les gens qui doivent être sur le terrain, mm-hmm. ce sont eux qui sont censés élaborer ces plans d'action. Et la plupart des gens n'ont pas les profils par rapport à ce qu'ils doivent faire. Vous allez trouver que quand les chefs de l'État avaient lancé ces chantiers, moi j'étais curieux de vérifier, il n'y a pas de techniciens en matière de l'emploi. Je suis allé me faire former avec mes propres moyens parce que je savais qu'il y aurait un problème sérieux du chômage. Il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui doit donner des pistes de solutions.
Oui. Après, après l'élaboration d'un plan d'action, deuxième étape.
Ok, il faut qu'on puisse reformuler un peu le système éducatif. On doit les reformuler. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire doit s'asseoir avec la corporation des entreprises. Qu'on demande à ces gens-là quels sont vos domaines d'intervention ou vos secteurs d'activité. Il faut que la formation que l'université doit donner corresponde aux besoins réels de l'employeur en matière de la main-d'œuvre.
Oui.
C'est comme si vous formez des gens selon votre programme et les gens qui doivent consommer ces gens-là sur le terrain ont aussi leur secteur d'activité.
Oui.
Vous allez vous rendre compte que ça ne va pas, ça ne peut pas passer. Donc il faut qu'on puisse réformer le système éducatif. Et il y a par exemple certains professeurs qui donnent cours à l'université. Moi je trouve que ce n'est pas important si vraiment on doit former les chercheurs. Que ces gens-là restent. Mais si nous avons besoin de former des praticiens, des exécutants, il ne faut pas qu'on donne les cours à certains professeurs qui n'ont jamais appliqué ce qu'ils sont en train d'enseigner. C'est comme un féticheur. Il dit des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Vous enseignez la comptabilité à quelqu'un, vous-même, vous n'avez jamais été comptable. C'est que vous dites, là, vous avez trouvé ça où? Et maintenant, quelqu'un, quand il va aller
dans les livres,
terrain,
donc c'est...
Justement, les livres, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit. Il faut maintenant comparer les livres et ce que vous avez fait vous-même.
Oui.
Vous avez une idée sur ce qu'il faut enseigner aux gens.
Oui.
Et puis de troisièmement, il faut qu'on puisse un peu réformer certaines choses. En quel sens? Quand quelqu'un vient à l'université, on doit faire la part des choses. La formation pour les chercheurs et la formation pour les professionnels. Il faut que ça soit clair à ce niveau-ci.
Donc on doit répartir.
Justement,
que cela soit clair.
Quelqu'un qui vient à l'université avec l'idée d'être chercheur, on va toujours les former dans ce même système ici. Mais quelqu'un qui a une vision professionnelle, il faut qu'on lui donne la formation par rapport à la réalité de l'emploi. On doit éviter de trop mêler les choses. Certains cours, on doit les éliminer inutilement.
Oui.
Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Alors, et on a, Alain Poutou, on a l'impression que notre système éducatif forme beaucoup plus des gens qui vont aller chercher de l'emploi. Mais on ne cherche pas des créateurs, des gens qui peuvent créer de l'emploi.
Oui, mais ça c'est justement dans les plans d'action. Je suis en train d'ailleurs de proposer un nouveau plan d'action que je vais soumettre au gouvernement sur la réduction du chômage. Je parle sur l'entrepreneuriat.
Oui.
Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Dans les plans d'action de lutte contre le chômage, je crois que l'entrepreneuriat doit être à la première position parmi les actions à entreprendre. Parce que je vais vous donner un exemple. Si 5000 jeunes sont formés en entrepreneuriat, ça signifie 5000 petites activités, small
petites
business,
et moyennes
voilà, qui
ouais.
seront créées.
Oui.
Et chaque petite et moyenne entreprise aura besoin d'un personnel, donc 3 ou 4. Faites un calcul simple. 5000 multiplié par 5, nous avons au moins combien? 25 000 nouveaux emplois qui seront créés,
oui.
n'est-ce pas, à l'écart des 5 ans. Donc ça, ce sont des données fiables que je suis en train d'élaborer pour vraiment proposer des solutions trop pratiques.
Donc il faut aussi former des entrepreneurs, des businessmen.
C'est ce qui fait que dans les systèmes que je dirige actuellement, nous avons mis sur pied une gamme de 19 modules de formation qui correspond au poste. Évitez de former des généralistes. Formez quelqu'un par rapport au poste. Vous allez trouver, il y a un poste assistant administratif et financier. Aucune université qui a l'option d'administration et finance. Même quand ils donnent ça, ils font des cours un peu qui ne correspondent même pas au poste. Vous allez trouver...
C'est beaucoup de théories.
Justement, il y a des gens... Je vis un monsieur avant-hier, il est dans une organisation là où je évolue, je ne vous parle pas des détails. Le monsieur est aux finances. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez fait? Lui, il a dit, il est licencié en agronomie. Vous imaginez? chargé des finances, mais licencié en agronomie. Il a appris les finances où? On l'a formé dans l'entreprise. Vous comprenez? Donc, actuellement, les entreprises n'ont plus besoin de ce que vous avez fait. Ils ont besoin de ce que vous êtes capable de faire. Et ce que vous êtes capable de faire, ça peut pas être donné par l'université. Non, il faut être sur le terrain.
Vous avez des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Jeune diplômé, comment réussir votre intégration dans la vie professionnelle? Alain Poutou, vous avez dit tout à l'heure, d'abord, il faut que l'État élabore un plan d'action en ce qui concerne l'emploi et puis réformer le système éducatif. Il faut établir une distinction à l'université quand les enfants viennent. Ceux qui veulent être formés comme chercheurs, voilà, ils ont leur module de formation, et les travailleurs, ceux qui veulent des professionnels. Donc, on doit leur donner aussi une formation adaptée. Maintenant, au niveau du jeune lui-même, parce que les jeunes sont découragés. Ah non, il faut un parapluie, il faut avoir un oncle dans une entreprise pour être accepté, ou soit on dit non, là-bas il faut faire partie d'une organisation loge pour être accepté. Ça, on entend les jeunes, ça les décourage, ils se disent bon, Moussala, ils a pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes?
Mais on n'en disconvient pas, ces histoires de relations là, on ne peut pas les éviter, c'est très important. En management, lorsqu'on veut donner la promotion à un agent, on demande toujours l'avis de son supérieur. C'est ce qu'on appelle la loi du parrainage. Il faut toujours que quelqu'un soit là pour vous parrainer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Il faut toujours que les gens cherchent des relations. Même vous, quand vous êtes ici, je crois que il y a certaines informations internes que vous connaissez que moi, je ne connais pas. Si je veux entrer dans les systèmes, je suis censé d'abord chercher un peu à fouiller les informations par rapport au système là où je vais aller. Les chercheurs d'emploi, leur problème, c'est quoi? C'est comme ça que je condamne toujours l'université, parce que l'université les a laissés dans des prétentions. Les gens arrivent avec des illusions dans la tête. Il va faire les droits. En première année graduat, il s'est dit déjà, je suis maître. Il va en relations internationales, il dit, je suis diplomate. Donc, lui, il marche avec cette illusion dans la tête. Alors, maintenant, il faut que l'université explique aux gens clairement.
C'est l'orgueil académique.
Justement, que l'université dise aux gens que nous vous formons comme des chercheurs. La réalité du terrain en est une autre chose. Oui. Il faut qu'on puisse un peu bien, nettoyer la tête des gens par rapport aux réalités du terrain. Maintenant, au chercheur d'emploi lui-même, il doit d'abord faire un effort de se mettre à jour. C'est-à-dire, il doit s'apprêter, il doit suivre trop de formations professionnelles. Parce que vous allez trouver actuellement, les entreprises craignent beaucoup de recruter quelqu'un qui n'a pas l'expérience, quelqu'un qui est débutant. L'entreprise suppose que cette personne va trop nous coûter. Il faut investir de l'argent pour le former. Alors, si quelqu'un est déjà prêt à utiliser, il a déjà des formations, il est déjà assis par rapport au poste qu'il veut occuper, je crois que l'entreprise ne va pas poser trop de points pour recruter une telle personne. Parce que les entreprises ne veulent pas, ils vous forment et ils vous payent encore un salaire dès le début. Non. Il y a des formations qu'on va vous donner quand vous serez dans les systèmes, parce que ça, c'est par rapport à leur système de travail. Oui. Mais au début, en venant, vous êtes censé d'abord être outillé.
Il existe d'ailleurs un institut, INPP, Institut National de Préparation Professionnelle. Après l'université, il y a des jeunes aussi qui suivent des cours là-bas, même mécaniciens, ils apprennent beaucoup de choses pour être déjà prêts. Pour être accepté quelque part.
Exactement. Vous êtes quelqu'un de la communication. Je crois que vous avez certaines informations. Moi, je vous ai toujours dit que les marchés actuels, vous êtes dans un système international. Les marchés dominés par les organisations internationales et les multinationales. Ces systèmes-là ont leur propre méthode de travail. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont des capitalistes et ils visent plus les résultats. Mais les formations qu'on donne ici, est-ce que vous avez vérifié que ce sont des formations qui correspondent aux besoins de l'employeur? Vous allez dans la télécommunication, il y a des licenciés en droit qui sont au service client. Où est-ce qu'ils ont appris le marketing? C'est sur le terrain. Mais pendant qu'il y a des formations qu'on peut donner, ça ne correspond pas normalement au travail que quelqu'un doit faire.
Voilà, donc il faut une formation, suivre beaucoup de formations.
Une formation adéquate, oui, justement, se mettre à jour, être en conformité avec les standards du poste que vous voulez occuper. Ça, il ne faut pas éviter.
Alors là, il faut qu'il y ait, est-ce qu'il, d'abord, il y a aussi un problème, est-ce qu'il existe des centres un peu partout qui donnent ces genres de formations?
Mais il y en a pas. Nous sommes au moins le, je peux le dire, le premier centre qui forme maintenant en gestion des opérations humanitaires. Vous allez trouver que il y a des organisations internationales qui viennent avec leurs missions humanitaires, mais au Congo, il y a pas un centre qui forme les gens dans la gestion des opérations humanitaires. Quand nous avons constaté que il y a pas ces centres-là, tout de suite là, nous avons mis sur pied ces programmes-là. Donc on va passer province par province, ville par ville, pour former les gens par rapport aux réalités professionnelles des ONG internationales. Former les gens par rapport à la gestion des opérations humanitaires. Parce que
les gens d'opérations, par exemple.
Par exemple, quelqu'un qui doit travailler comme chargé de programme dans une ONG internationale ou assistant au programme. L'université n'a pas cette option-là. Il ne faut pas confondre, parce que vous avez fait le développement, vous dites que je suis chargé de programme. C'est faux. On va vous montrer comment on peut faire des plans de travail annuels, comment on peut faire les évaluations, comment on peut rédiger les rapports de fin des programmes. Donc il faut qu'on vous forme. Et puis la méthodologie qu'il faut utiliser, c'est quoi? C'est prendre quelqu'un qui est dans le poste, qu'il vienne un peu expliquer aux gens qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas question de théorie. Voilà, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas de nom des auteurs. Non, dites à la personne ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il faut former quelqu'un droit au but au lieu de passer de gauche à droite.
Oui, Christian Bokessé nous appelle de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Christian, bonjour.
Bonjour, M. Jordi Daniel. Bonjour également à l'invité que j'aime bien.
On vous écoute, Christian.
Je voudrais poser mes deux questions à notre invité. Parce qu'il vient de dire tantôt que les études universitaires sont importantes, bien sûr, mais il faudrait passer par des formations sur le terrain. Je voudrais lui demander, tout en me référant aux offres d'emploi que nous entendons toujours à la radio Capier et partout dans des affiches. Et lorsque, par exemple, dans des rubriques des offres d'emploi, on met aussi une rubrique là, études faites par exemple dans tel domaine. Est-ce que si par exemple les études universitaires, je peux dire dans quel domaine c'est pas tellement important, mais disons avec des prétentions que nous avons nous étudiants, qu'est-ce que le métier vite fait me dit par rapport à cela, aux offres d'emploi dont on détermine un peu les filières que quelqu'un a opté à l'université. Et ma deuxième question, je voudrais demander à notre invité. Quel conseil qu'il peut donner aux gens qu'on a trouvés sur terrain, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé bien avant les jeunes diplômés, qui vient après d'avoir suivi aussi la formation sur terrain, mais nous avons toujours constaté qu'il y a des conflits qui s'installent au terrain. Donc les gens qui se trouvent là, ils n'acceptent pas les jeunes diplômés facilement de s'intégrer là où ils sont. Quels sont les conseils que notre invité peut donner à ce genre de personnes?
Merci à Christian Bokessé de Mbandaka. Alain Poutou.
Ok, et il a parlé tout à l'heure là que quand il y a l'offre d'emploi, on donne déjà les critères, par exemple les qualifications.
Il faut un diplôme.
Voilà, ok. Les gens qui lancent ces offres d'emploi là, ce sont pas des Congolais, ce sont des organisations étrangères. Pour eux, ils supposent que quelqu'un qui a déjà une licence dans tel domaine est capable de faire tel travail. C'est-à-dire, il élabore par rapport au système de son pays d'où il vient. Il oublie que la réalité d'ici, c'est pas la même que la réalité de là où il vient. Ici, chez eux, quand on forme quelqu'un, vous allez faire un constat. Quelqu'un qui a une licence en marketing ici au Congo et quelqu'un qui a un graduat en marketing d'un autre pays, lorsqu'ils vont chercher le travail, on préfère celui qui vient d'ailleurs que celui d'ici. Vérifiez un peu ça. La plupart des gens qui occupent les fonctions du directeur de marketing, directeur commercial dans la télécommunication, dans la multinationale, ce ne sont pas des Congolais. Or ici, on a des licenciés en économie, des licenciés en marketing, mais pourquoi on leur donne pas ces postes-là? Parce qu'on est conscient que ce qu'ils ont appris, ça n'a rien à faire avec le travail. On va pas vous payer un salaire pour ne pas empêcher l'entreprise de progresser. Vous connaissez des théories, vous ne connaissez pas la pratique. Quand ils disent que licenciant ces sciences-là, ils supposent que cette personne la connaît. Mais chez nous ici, c'est pas le cas. On forme autre chose. Prenez la liste de tâches dans une offre d'emploi. Oui. Comparez ça avec les cours que vous avez suivis à l'université. Ça correspond pas.
Bon, vous allez répondre à la question de Christian, la deuxième partie tout à l'heure, le temps de recueillir la question de Rigane de Lubumbashi. Et Manonga nous appelle de Bandundouville. Rigane, bonjour. Rigane, bonjour.
Bonjour, je dis.
Vous êtes à Lubumbashi, quelle est votre question?
Oui, une question. Hein. Comme l'invité vient de dire de la formation, hein.
Oui.
En fait, moi, par exemple, je viens de l'université, je viens de terminer. Bon, cette formation-là, l'invité vient de dire, et puis je suis engagé. Cette formation-là, ça va se passer dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en ce qui concerne le travail, hein, est-ce qu'il y a-t-il une loi qui exige le partage du salaire? C'est-à-dire, j'ai postulé, j'ai réussi, on m'a engagé. Oui. La personne-là qui m'a réussi, qui m'exige qu'on puisse faire le partage de 10% dans mon salaire. C'est tout.
Merci, Rigen, pour cette révélation. Malonga de Bandounouville, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste et notre invité.
On vous écoute.
Ok, en tout cas, j'ai été beaucoup soulagé par les propos de notre invité. Là où il a soulevé le cas ou bien les attitudes des jeunes étudiants qui résonnent directement des fonctions qui n'ont pas encore atteint, de s'appeler quelqu'un qui est en G3, en G1 droit, il s'appelle déjà maître, en G1 médecine, il s'appelle déjà docteur. En tout cas, c'est bien. C'est ce que nous aussi nous condamnons ici. Bon, je dis ceci, ce que je veux demander, à qui peut-on attribuer cette erreur? Puisque on laisse ces appellations comme ça, hein, dans des institutions. Il y a des professeurs, il y a des assistants qui écoutent cela. Au lieu des étudiants s'intéressent à des innovations, et se développent seulement à ces illusions qui n'arrivent pas à leur pousser à faire des recherches.
Oui.
Alors pour moi, vraiment, à qui on peut attribuer cette erreur ou bien ce défaut?
Merci Malonga de Bandounouville. Mangou nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Mangou.
D'accord, merci beaucoup. Je tiens d'abord à les capacités de notre invité. Il a dit des choses qui sont vraies. Nous saluons ça vraiment. Je voudrais poser quelques questions. Comme par exemple, quand on voulait engager une personne, on demande les premières choses et qu'il présente ses expériences. Alors, franchement, ceux qui viennent de l'université, quelles sont les expériences que ces gens peuvent présenter alors qu'on est en train de demander qu'ils présentent leurs expériences? C'est ça ma question.
Merci Mangou depuis Lubumbashi. Alors Alain Poutou, la deuxième partie de la question de Christian Bokessier, il parle des conflits des générations, des jeunes qui arrivent dans une entreprise, ils n'arrivent pas à s'intégrer parce que ceux qui étaient là avant les combattent, et c'est des conflits à tout moment. Comment gérer ça?
Mais et quand ils arrivent, ils viennent déjà avec l'idée que parce qu'on lui a dit qu'il est politologue, il est diplomate, il est maître, il est inspecteur de finances. Il vient avec cet orgueil-là. Et là, la personne qui est sur place ne peut jamais accepter ça. Il y a ce qu'on appelle les conflits de compétences. Comment vous avez trouvé les gens? Parce que vous allez voir dans la gestion prévisionnelle des emplois, dans l'intégration de jeunes dans les milieux professionnels, il y a ce que nous appelons, quand vous prenez un jeune qui vient fraîchement de l'université, quand bien même qu'il a ses formations, il ne faut pas lui donner les postes du leadership. Il ne peut pas être au-dessus de la personne qu'il a trouvée. On les met à côté comme un assistant. On est en train de les former progressivement. On cherche un autre poste qu'on va créer pour la personne. Ou alors, la personne qui était son supérieur, on va lui donner notre poste pour que lui puisse occuper les vrais postes. Parce que le point, c'est quoi? Quand vous venez, vous devez avoir un peu l'esprit de l'humilité. Faites semblant comme si vous ne connaissez rien. Vous venez avec un esprit d'observation. Je crois que prochainement, je serai encore sur le plateau pour parler de techniques de recherche d'emploi. Parce que c'est là où il y a un problème. Les gens n'ont pas développé les techniques de recherche d'emploi. Ils postulent n'importe comment, ils postulent n'importe où. Et il postule n'importe quand. Il faut comprendre quand est-ce que je dois postuler, où est-ce qu'il faut postuler et comment postuler. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi. Je crois que prochainement, on va y développer. Alors ici, il faut que le monsieur comprenne qu'en venant, il doit faire semblant. Il ne faut pas qu'il vienne avec l'esprit là, académique. Je suis licencié en droit, je vais montrer à ces messieurs ici que je connais tout ça. C'est faux. Parce que c'est le monsieur qui connaît la pratique.
Oui.
Vous venez plutôt pour apprendre. Ce qu'il faut faire, soyez humble. Entrez d'abord. Accepter de vous humilier.
Humilier, oui. Ça va vous éviter des conflits.
Ça va vous éviter.
Alors, Rigen Alumbashi dit, vous avez parlé de la formation, il faut se mettre à jour. Ce genre de formation, c'est l'entreprise qui organise, ça se fait au sein de l'entreprise, ou c'est en dehors, on peut suivre ces formations un peu partout.
Monsieur le journaliste, la formation coûte cher. Ça, en tout cas, nous le savons tous. Ça coûte cher. Et la personne, je parle plus pour quelqu'un qui est déjà dans les postes. Lui, il peut bénéficier des formations de la part de l'entreprise, si l'entreprise dans les ressources humaines elle a la politique de formation. Si l'entreprise n'a pas la politique de formation, la personne elle-même doit accepter de payer un coût. Il doit suivre des formations pour faire la gestion de sa carrière. Donc il doit planifier la promotion. Pour qu'il soit promis, il doit tout faire aussi de s'adapter par rapport au nouveau projet de l'entreprise.
Donc il doit suivre des formations.
Justement, individuellement. Oui. C'est ce que nous appelons les systèmes d'espionnage. Donc il connaît déjà la vision de l'entreprise. Lui, il se met déjà à jour. Il doit anticiper les besoins. Quand on va chercher à promettre les gens, on commence maintenant à chercher qui a la formation. Lui va brandir son certificat. Donc il était déjà formé bien avant. Oui. On appelle ça les systèmes d'espionnage. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, la personne doit déjà venir dans l'entreprise avec un poids. Il doit déjà être rodé. Il vient avec, par exemple, 6 formations. Donc l'entreprise regarde de part et d'autre. Cette personne s'est déjà préparée. Donc on ne peut pas vous mettre de côté. Parce que le point qu'il y a, c'est quoi? On met, par exemple, 6 licenciés en droit. Tout le monde est licencié. Vous tous, vous avez même cours à l'université, même professeur. Vous venez d'une même université.
Oui.
Mais il n'y a pas ce qu'on appelle valeur ajoutée ou domaine de compétitivité. Vous connaissez tous les procédures judiciaires, vous connaissez tous les droits. Maintenant, cherchez un peu comment est-ce que vous pouvez être différent des autres.
C'est de marquer des autres.
Justement.
Quoi. Oui. Alors, Rigan Al-Mumbashi, il dit ceci, il a trouvé un emploi quelque part. La personne qui l'a aidé à trouver cet emploi lui exige 10% de son salaire chaque mois.
Je crois qu'il devait se poser la question. Qui est cette personne? Il occupe quelle fonction dans l'entreprise? Parce que moi, je n'aime pas répondre des choses comme ça. Il faut d'abord étudier la personne. Il faut que M. Rigaud pose la question à la personne. Il fait quoi là-bas? Il occupe quelle fonction?
Bah, peut-être que c'est le directeur des ressources humaines.
Une
autorité, quelqu'un qui l'a aidé à trouver cet emploi.
Quelqu'un qui l'a aidé?
Oui.
Oui, peut-être qu'il y a eu des conventions avant qu'on l'aide. Il doit encore poser la question à la personne.
Oui, peut-être que la personne lui a dit, bon, quand je vais t'aider à trouver cet emploi, tu me donnes 10% sur ton salaire. Non, il accepte pas qu'il était dans le besoin, mais arrivé à l'intérieur, il trouve que c'est pas bon, quoi.
Comment vous acceptez parce que vous êtes dans les besoins et en arrivant à l'intérieur, vous trouvez que c'est pas bon? Je crois qu'il faut faire les choix avant d'entrer. Cette personne-là, c'est pas le système de l'entreprise, c'est faux. La personne a un défaut au niveau du caractère. Ça dépend pas de l'entreprise.
Donc c'est des arrangements.
Oui. La personne a un problème au niveau du caractère, c'est pas l'entreprise.
Alors maintenant, comment il peut s'en sortir? Parce que ça colle plus.
Non, ça colle plus. Comment? Pourquoi il a accepté ça d'abord avant? C'est là où il y a un problème.
Il ne veut pas accepter avant.
Non, il doit être clair.
Il doit être clair. Alors Malonga depuis Bandundu, qui dit qu'il constate également que là-bas, les jeunes gens aiment bien s'arroger des titres. Je suis maître, je suis ici. Et alors il dit à qui attribuer ces fautes-là? À qui attribuer la faute? Parce que les jeunes gens sont derrière les titres et ils veulent pas aller loin.
C'est à l'université, parce que vous savez, il y a un problème au niveau de la vulgarisation sur l'emploi. Je vous assure, c'est un sérieux problème. C'est dans mon plan d'action, je prévois tout ça, que je veux organiser des ateliers, des séminaires, des conférences, toujours sur les problèmes de l'emploi. Parce que je vois que ça pose un grand problème dans ces pays. Il n'y a pas de gens de bonne foi, de gens de techniciens qui peuvent vulgariser l'information. C'est l'université qui met les gens en les gens sont en erreur, c'est à l'université. Pourquoi? Parce que quand les gens arrivent, il faut pas leur dire que non, vous êtes maître, vous êtes diplomate, vous êtes politologue, vous êtes docteur, vous êtes inspecteur des finances. Non, dites aux gens que ici nous vous formons comme chercheurs. Les titres là que vous voulez, c'est quand vous serez sur terrain. Vous allez trouver dans les offres d'emploi, il y a ce que nous appelons les messages basés sur la peur. C'est-à-dire, on lance l'offre d'emploi, on demande 2 à 3 ans d'expérience pour effrayer les gens. En réalité, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. À l'émission prochaine, je vais démontrer ça. Ce sont des pièges.
Oui. Mangou de Lumbashi dit, on exige des expériences. Il faut avoir autant d'expérience. 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, alors ça décourage.
Ça peut pas se décourager. Je vous pose la question, celui-là qui a 10 ans, est-ce qu'il est né avec l'expérience? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On appelle ça les messages basés sur la peur. Maintenant, la personne doit apprendre à faire la lettre de motivation. Là où il doit démontrer ses habiletés, ses compétences. Parce que je vous donne un exemple pratique. On lance l'offre d'emploi, on cherche un assistant administratif. On demande 5 ans d'expérience. Vous avez une licence en sciences politiques et administratives. Vous prenez encore votre stylo et les papiers. Monsieur, j'ai l'honneur de venir chercher un poste vacant. Pendant que le poste est déjà là. On cherche la lettre de motivation, vous faites encore la lettre de demande d'emploi. Vous êtes à côté. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'expérience, il a les habiletés. J'ai toujours dit ça, il y a une grande différence entre l'expérience et l'ancienneté. Cette personne-là qui a 10 ans, je crois que le premier jour aussi, on lui avait demandé 5 ans d'expérience. Il avait postulé.
Oui.
On n'est pas né avec l'expérience. L'expérience, on les développe sur le terrain. Donc, les gens qui cherchent le travail doivent apprendre ce que nous appelons les techniques de vente des compétences. Comment écrire pour dévier ces problèmes d'expérience. C'est facile à les contourner dans votre lettre de motivation.
Merci Alain Poutou. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et peut-être un numéro d'appel, un numéro de contact pour ceux qui veulent avoir suivre des formations.
Merci beaucoup. Mon numéro, c'est le 09
oui.
98 17 21 43. 98 17 21 43. Donc, nous sommes dans un bureau de consultation. Toute personne qui a un problème en rapport avec la formation ou il a l'offre d'emploi qui cherche à postuler, on est là pour les aider. Le 22, déjà, nous sommes à Goma pour une grande conférence sur les techniques de recherche d'emploi avec tous les étudiants des institutions supérieures universitaires. Parce qu'il y a un problème sérieux au niveau de l'emploi, alors il faut commencer la vulgarisation. Nous allons implanter 25 bureaux de représentation pour les études en matière de l'emploi.
Bien, 09 98 17 21 43. Alain Poutou, expert en ressources humaines, merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.